BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Thomas Asportas.
Bientôt 18h, bonsoir, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. On a ce tacle de la Banque de France à Emmanuel Macron. Il faut arrêter de croire que la croissance va régler à elle seule, par magie, tous nos problèmes de finances publiques. C'est le message clé du gouverneur de la Banque de France au président de la République. On va évidemment décortiquer cette lettre dans les moindres détails ce soir dans Good Evening. Sinon, le monde se réarme à vitesse grand V, c'est pas un scoop, vous me direz, avec la guerre en Ukraine et celle au Proche-Orient, mais les chiffres publiés ce matin par le CIPRI sont quand même impressionnants, avec, vous allez le voir, des hausses d'investissement jamais vues depuis 15 ans. Et puis au même moment, la transition énergétique, elle, marque le pas. On en parle à l'occasion de l'ouverture du congrès annuel de l'énergie, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, aux Pays-Bas. Et on en parle notamment ce soir dans la grande interview d'Edwige Chevrillon, qui reçoit Ondine Suave, la cofondatrice de la start-up dans l'énergie solaire, MyLight 150. Ce sera à partir de 18h10. Voilà le programme de Good Evening, on est en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc, je vous le disais, avec la lettre annuelle du gouverneur de la Banque de France au président de la République. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir.
Les temps ont changé visiblement, Alexandra, puisque les lettres de 2022 et 2023 étaient consacrées à la gestion de l'inflation, alors que celle de cette année appelle à rétablir d'urgence les comptes publics, Alexandra.
Exactement Thomas. D'abord, un constat en forme qui sonne comme une sonnette d'alarme. Croire que la croissance seule réussira à lutter contre les déficits est un vœu pieux, une illusion. La France fait désormais partie du club peu prisé des mauvais élèves de l'Union européenne, avec un déficit creusé à 5,5% du PIB l'an dernier. Alors François Villeroy de Gallo le martèle, pour parvenir à maîtriser la dette publique, il faut commencer par s'attaquer aux dépenses, avec un objectif raisonnable, stabiliser en volume les dépenses publiques. Alors la question, c'est comment? Alors que le gouvernement refuse de décider de nouvelles baisses d'impôts générales, le gouverneur de la Banque de France estime, lui, qu'il ne faut pas avoir de tabou en termes de fiscalité. D'une part, la France n'a pas les moyens de conduire de nouvelles baisses d'impôts non financées comme c'est prévu, c'est-à-dire la CVAE pour les entreprises et les 2 milliards d'euros prévus pour les classes moyennes. D'autre part, on peut envisager d'élargir l'assiette de certains impôts sur les ménages et les entreprises et de revoir certaines niches, Thomas. En clair, envisager certaines hausses d'impôts ciblées.
Et ben voilà, le message est passé auprès du président de la République. Merci beaucoup Alexandra. Alors, des d'impôts ciblés, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des économies, et notamment pour financer l'effort de guerre. Et on apprend aujourd'hui que les dépenses militaires ont battu tous les records l'année dernière, à plus de 2 400 milliards de dollars. La hausse des dépenses est la plus élevée depuis 2009. Jean-Baptiste Huette.
Plus de 2 400 milliards de dollars de dépenses militaires l'an dernier. En progression de 6,8%, il s'agit là de la plus forte augmentation d'une année sur l'autre en 15 ans. Sans surprise, cette augmentation est directement liée au contexte de guerre et aux fortes tensions géopolitiques. Les États-Unis, la Chine et la Russie sont en tête du classement. Ce qui frappe, c'est l'écart entre le premier et le deuxième. Washington a mis plus de 916 milliards de dollars sur la table et Pékin environ 280 milliards. La France, de son côté, se classe 9e avec 61 milliards de dollars de dépenses militaires. Amérique, Europe, Asie, Océanie, toutes les zones sont en augmentation. Le Moyen-Orient également. Les dépenses militaires atteignent là-bas 200 milliards de dollars en hausse de 9%. Une forte augmentation des dépenses, hein, explique le CIPRI, qui reflète l'évolution rapide du contexte régional. On est passé d'un réchauffement des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes ces dernières années au déclenchement d'une guerre d'ampleur à Gaza. Et aux craintes maintenant d'un conflit à l'échelle régionale.
Jean-Baptiste Huette, 18h03, direction l'Allemagne, à présent avec l'ouverture aujourd'hui de la foire de Hanovre. Vous savez, le grand rendez-vous incontournable en Allemagne pour son industrie. Et le pays place beaucoup d'espoir dans cette édition 2024, au moment où le pays est en berne, sa croissance en tout cas. Sur place, pour BFM Business, notre correspondante en Allemagne, Salomé Enoncohin.
La foire d'Hanovre, qui existe depuis 1947, c'est l'industrie du numérique, des nouvelles technologies, de la mécanique et de l'énergie, toutes réunies sous le même toit, et ce, pendant 5 jours. Au programme de cette édition 2024, numérisation, automatisation des processus de production ou encore intelligence artificielle et surtout développement de l'hydrogène. La foire a d'ailleurs choisi la Norvège comme pays partenaire, leader dans le domaine. Oslo pourrait fournir de grandes quantités d'hydrogène vert dans les prochaines années à l'industrie sidérurgique allemande qui en aura grandement besoin. Sont attendues aussi les entreprises allemandes comme Siemens, Bosch ou encore Volkswagen. Mais ce sont probablement les mots du chancelier Scholz qui devraient marquer cette édition 2024 alors que l'économie allemande traverse une phase assez difficile. Dans son dernier rapport, la Bundesbank ne voit d'ailleurs pas de signe significatif de reprise de l'économie, malgré un premier trimestre encourageant. Mais ici, on espère tout de même que cela sonnera la fin du ralentissement après plus d'un an de stagnation.
Salomé et non Cohen. Et puis pour finir, c'est une nouvelle semaine décisive qui s'ouvre pour Atos, puisque l'entreprise présente ce vendredi les offres reçues pour son sauvetage. OnePoint dévoilera la sienne dès mercredi. Et en parallèle de ça, l'État étudie la possibilité d'entrer au capital de BDS. BDS est la division d'Atos qui loge les activités sensibles de défense nationale, qui, vous le savez, préoccupe en plus haut lieu au sommet de l'État. Mathieu Pechberti.
C'est une petite société d'Atos qui concentre l'attention du gouvernement. MCS pour Mission Critical System est au cœur de la défense nationale. Elle s'occupe du combat aérien des Rafales, des écoutes de la DGSE ou encore de la simulation des missiles de l'armée. Le ministère de l'économie a déjà négocié une action spécifique et des droits de gouvernance pour protéger MCS. Mais selon nos informations, il réfléchit à aller plus loin et étudie une prise de participation minoritaire au capital de BDS, la division qui contient MCS, ainsi que les supercalculateurs et la cybersécurité d'Atos. Le groupe n'y est pas favorable et brandit déjà la facture. Il en coûterait 180 millions d'euros à l'État pour prendre seulement 10% de cette branche, valorisée 1,8 milliard d'euros lorsqu'Airbus a failli la racheter au mois de février. L'État a déjà essayé d'intervenir par l'intermédiaire de Thales, dont il détient 26%. Selon nos informations, le groupe de défense a déjà approché Atos en début d'année pour lui racheter sa petite société MCS, mais il a été éconduit.
Mathieu Pechberti, 18h06, on va sur les marchés. Les marchés en direct d'Euronext avec Aude Kersulec. Bonsoir Aude, quel est le verdict à la clôture de cette première séance de la semaine ?
Et on repart du bon pied, une hausse pour commencer la semaine. À Paris, c'est plus 0,2%. Alors cette hausse, elle est quand même contrastée sur les marchés européens parce qu'on a Londres qui grimpe de plus de 1,6%, tout proche d'ailleurs de ses records. Il faudra suivre ça les jours suivants. Wall Street est dans le vert après une semaine dernière quand même catastrophique. On avait perdu plus de 5% sur le Nasdaq. Alors attention tout de même parce qu'on continue d'avoir de la tension sur les marchés obligataires. Tenez, on a la dette française à 10 ans aujourd'hui, qui a passé la barre des 3%. On reste également très élevé sur le 2 ans américain à quelques points de base des 5%. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a manqué un peu de moteur, plus 0,2%, ça reste assez faible. Edenred s'est repris sur le marché parisien après des informations vendredi sur l'enquête judiciaire qui a lieu en Italie et sur la mise en examen de 4 anciens dirigeants. Aujourd'hui l'entreprise a tenu à rassurer. Worldline aussi surclassé le SBF en prenant plus de 8% après un conseil d'administration renouvelé et l'entrée de 3 nouveaux membres. Voilà, en tout cas, sur les autres marchés, le pétrole s'est assagi, $87. L'or a considérablement baissé. Il est à $2349. Voilà, les tensions géopolitiques sont mises de côté cette semaine. On va vraiment regarder du côté des publications de résultats. Aux États-Unis, ce sera la tech et chez nous aussi, les publications de chiffre d'affaires. Ça commencera demain matin avec Renault. Voilà pour le CAC 40 qui monte de 0,2% à 8040 points ce soir, Thomas.
Merci beaucoup de Kersulec. Un coup d'œil au marché américain. À Wall Street, le Dow Jones gagne 0,35% à 38120 points. Le Nasdaq, quant à lui, eh bien, gagne aussi 0,40% à 15342 points. Allez, 18h09, on marque une pause et dans un instant, la grande interview. Edwige Chevrillon reçoit Ondine Suave, cofondatrice de la start-up dans l'énergie solaire MyLight 150 à l'occasion du congrès annuel de l'énergie. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler d'électricité, vous savez, c'est le 26e congrès mondial de l'énergie et on va parler d'autoconsommation, un démarrage absolument fulgurant en France et c'est peut-être la solution à l'explosion de notre facture d'électricité. Bonsoir, Ondine Suavet.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et co-CEO de MyLat 150. En tout cas, c'est comme ça vous dites. C'est une ETI que vous avez créée avec votre frère.
Oui.
À peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en même temps, ça galope, vous multipliez par 3, par 5 votre chiffre d'affaires. Vous avez, je crois, déjà 250 personnes et vous êtes, votre principe, votre concept de cette entreprise que vous avez créée il y a une dizaine d'années, c'est donc l'autoconsommation, c'est devenir leader dans l'autoconsommation solaire. Vous allez tout nous expliquer. D'abord, deux, trois petites questions. Ondine Suavet, merci d'être là parce que vous venez de Lyon spécialement pour nous. Donc, c'est la porte à côté et en même temps, c'est pas évident. Mais il faut dire qu'il y avait une actualité très forte. D'abord, vous avez créé votre entreprise avec votre frère. C'est rare parce que souvent, c'est le mari, c'est peut-être l'amant ou la maîtresse, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, c'est deux personnes. C'est la première fois, je crois, que je vois un frère et une sœur qui créent leur entreprise et puis en plus, ça marche.
Alors, il y a quelques très beaux exemples en France. Vous prenez l'entreprise LDLC, un beau fleuron, ce sont deux frères.
Un frère et une sœur.
Alors, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas divorcer. Donc, quand il y a un enjeu, quand il y a un défi, il faut qu'on trouve la meilleure solution. Et ça, ça crée une gouvernance extrêmement dans l'échange, dans la co-construction, enfin, toutes ces valeurs qu'on essaye de promouvoir de plus en plus.
Valeurs familiales, mais que vous portez.
Exactement.
Parce que là, vous êtes coco, vous êtes co-CEO, co-fondateur. Voilà, donc.
Oui, alors il faut clarifier les rôles, il faut être très complémentaire, il faut énormément de dialogue. Et de toutes les façons, l'entreprise, ce n'est pas que nous. Vous avez cité 250 personnes, ce sont toutes ces personnes-là qui l'ont fait. Ouais. Et en fait, en étant déjà deux à la tête, ça encourage encore plus de démultiplier les talents.
Encore une autre question un peu personnelle. Vous avez fait l'INSEAD, vous avez fait la chimie tech, vous êtes une ingénieure spécialiste donc dans la chimie. Pourquoi il y a si peu de femmes? Pourquoi ça rebute autant les femmes de d'être ingénieure?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que les pourcentages stagnent. J'ai pas la réponse. Naturellement, mon parcours montre que en tant que femme, on peut se distinguer. On a un regard différent. On peut apporter énormément de choses dans ces domaines très techniques. Et il faut que l'on apprenne à s'en intéresser. Il y a des très beaux domaines qui se sont énormément féminisés, comme la médecine ces dernières années. Moi, je suis plutôt porteuse d'espoir que ces métiers très technologiques, très techniques, vont aussi se féminiser.
On dit une chose, je disais, 26e congrès mondial de l'énergie, dans un contexte un peu particulier, parce qu'on va parler évidemment d'énergie, de transition énergétique, transition écologique, et on voit bien que ça coince, on le voit sur les chiffres sur la voiture électrique, mais ça coince parce que ça a été trop vite, trop techno, ça coûte trop cher. Est-ce que vous le ressentez? Comment vous expliquez? Et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle se remette en marche?
Alors déjà, je pense qu'il faut comprendre un peu les ordres de grandeur. On doit, d'ici 2050, multiplier par 30% notre besoin en électricité. C'est-à-dire que si je donne des ordres de grandeur, aujourd'hui on a 600 TWh d'électricité, on doit passer à 900. C'est absolument gigantesque comme défi. Et on a eu plutôt ces dernières années un discours extrêmement anxiogène sur l'électricité, comme vous le dites. On a cru qu'on allait vivre des blackouts l'année dernière et on a peu eu...
Oui, mais ça nous culpabilise en
plus. Exactement.
Oui.
On a peu eu un message positif de cette transformation. Or, il faut bien comprendre que cette électrification, bien sûr, là, on est dans les rouages, alors ça ralentit un petit peu la voiture électrique, mais dans l'ensemble, il y a quand même une formidable dynamique. Et il faut bien comprendre qu'on est en train de résoudre un problème fondamental qui est le problème de notre empreinte carbone, qui est majoritairement lié à notre consommation d'énergie fossile.
C'est clair.
Il faut se le rappeler. Et il faut se le rappeler qu'en France, on n'est pas du tout dans une énergie décarbonée, puisqu'on a encore 60% de notre énergie qui sont de l'essence, de la chaudière à gaz, et donc très carbonée. Donc quand on parle électricité, c'est déjà qu'on a fait un formidable pas en avant, qu'on a transformé tous ces usages très pourvoyeurs de carbone en des usages décarbonés.
Ouais. En plus, dans 10 ans, il faudra doubler notre production d'électricité en France, rien qu'en France, parce que on le voit bien maintenant, tous les usages sont électriques,
exactement,
notamment la voiture, mais pas que, les bornes de recharge. C'est sûr que c'est là où on est dans une situation un peu paradoxal.
Alors, on est un peu paradoxaux, mais en même temps, on a éteint 5 réacteurs nucléaires ce week-end parce qu'il n'y avait pas assez de demande. Vous voyez, donc il y a vraiment des signes contradictoires parce qu'il y a deux courses qui sont en train de se poursuivre. Le déploiement des énergies renouvelables de manière massive, extrêmement forte dans le monde entier et en Europe. Et en parallèle, l'électrification des usages. Et quelquefois, c'est plus de production qui est déployée, moins de consommation. C'est ce dont vous parlez. La voiture électrique tous. Et en parallèle, le solaire, l'éolien s'envole. Et là, on voit des prix qui arrivent à des prix négatifs. Un prix négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver de la compétitivité à l'échelle européenne et à l'échelle française, parce que le coût de l'énergie est un des éléments clés de la compétitivité française.
Alors, du reste, les renouvelables, ça représente 40% maintenant l'électricité française?
Alors, 30% de l'électricité l'année dernière, oui. Oui, 30%. Oui. Donc, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a en tête.
Oui, tout à fait. Alors, vous, donc, MyLight 150, pourquoi MyLight 150?
Alors, 150,
parce
c'est
qu'on ne sait pas si c'est 150, ou c'est comment on dit.
En tout cas, c'est 150 millions de kilomètres, la distance entre la Terre et le Soleil, puisque nous faisons le lien entre cette ressource inépuisable qu'est le solaire et la consommation électrique représentée par la lumière, évidemment, MyLight, de la maison. Voilà l'enjeu de notre entreprise.
Oui, alors l'autoconsommation, expliquez-moi, parce que moi je dois reconnaître, enfin, je visualise assez bien, mais je ne mesurais pas à quel point c'était un marché qui est en pleine explosion.
Ah oui, alors on est en pleine explosion. Alors en France, un peu plus timide que nos voisins.
Oui, qu'en Allemagne. 500 000 sites en France autoconsommateurs, on dit comme ça.
Exactement.
En Allemagne, je crois que c'est
4 millions.
Ah oui.
Et aux Pays-Bas, c'est encore plus fulgurant, pourtant pas réputé pour son soleil. On est sur une maison sur quatre équipée. En France, on est sur quelques pourcents de maisons équipées. Donc, on est sur des taux de déploiement très, très importants. Ce qui veut dire que la France a un énorme potentiel.
Alors, quand on dit autoconsommation, expliquez-nous exactement qu'est-ce que c'est, jusqu'où, avec quoi, comment?
Alors, le principe est assez simple. Vous allez installer des panneaux solaires sur votre toit. Et l'électricité de ces panneaux photovoltaïques, donc qui produisent donc de l'électricité et pas de la chaleur, c'est déjà le premier point, va servir à faire les usages de votre maison, tous vos gros consommateurs, le chauffe-eau, tout votre consommation d'électricité. Le défi, c'est évidemment que vous produisez quand il y a du soleil et vous consommez plutôt quand vous êtes chez vous, c'est-à-dire en soirée, quand il y a moins de soleil. Donc le défi, c'est d'équilibrer et d'aligner l'offre et la demande dans la maison à tout instant, puisqu'on stocke encore très très mal les électrons d'un point de vue physique. Et ça, c'est ce que fait notre société. Donc nous, on va vous aider à vous installer. Nous ne sommes pas installateurs, mais nous travaillons avec un réseau d'installateurs, donc qui vous pose les panneaux, qui vous pose le système que l'on déploie, nos systèmes de gestion. Et après, on prend en charge toute votre facture d'électricité. Donc vous devenez client chez MyLight 150. Et là, on va s'arranger pour diviser votre facture de manière massive. C'est 2 2005, 3 000 euros d'électricité par an que vous économisez avec des retours sur investissement de 5 à 7 ans. Donc, c'est extrêmement rapide.
Mais comment quoi? Comment vous arrivez là? Comment vous arrivez à ces chiffres? Enfin, sans être trop technique, bien sûr. Mais
C'est assez simple. Déjà, on va identifier toutes les sources de consommation qu'on peut déplacer. Le plus évident, c'est le chauffe-eau. Les autres, c'est votre voiture électrique ou votre chauffage. Une pompe à chaleur, ça se gère. Ouais. Donc, on va commencer par gérer. Une fois qu'on a géré, donc là, déjà, vous atteignez des 50% de réduction d'électricité sur votre facture, voire plus. Une fois qu'on a commencé à gérer, il reste toujours des moments de la journée où vous allez plus produire et des moments de la journée où vous allez moins produire, ou en tout cas pas assez.
Et il suffit d'avoir un panneau solaire sur son toit, c'est ça que vous nous dites?
Non, un seul, évidemment, n'est pas suffisant. On commence à avoir des performances intéressantes quand on est à 10, une dizaine de panneaux solaires sur le toit.
Et de quelle taille les panneaux solaires?
Ils font 1 mètre par 1,50 m, c'est assez standardisé, ou même 1 mètre par 2 mètres à l'heure actuelle.
Donc,
15 mètres carrés à 20 mètres carrés de panneaux, on commence à être sur une installation qui peut vraiment vous amener de la performance.
Et après, vous, derrière, vous donnez un petit kit, en fait, qui permet donc à la personne, enfin aux habitants, parce que c'est surtout sur des maisons individuelles ou alors c'est sur des sites industriels, des écoles de...
Aujourd'hui, en France, la majorité de l'autoconsommation reste sur des maisons, puisque le propriétaire est celui qui paye la facture. Il commence à y avoir des déploiements sur des sites industriels. On voit beaucoup parler des d'ombrières solaires qui là peuvent être installées en autoconsommation. Pas toujours, mais c'est un des modèles. Mais nous travaillons sur la maison.
D'accord, ok. Et donc, en fait, si on installe tout ça avec votre kit, ça revient à combien c'est un investissement, parce que vous parlez de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est déjà un investissement. Alors, ça commence à chiffrer.
Oui, bien sûr. Alors, on est autour de, on va dire, 15 000 euros d'investissement. Ça peut monter si on augmente le nombre de panneaux solaires, c'est évident, baisser si vous en mettez moins. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que ça se finance extrêmement bien. Donc, vous pouvez aller voir votre banquier, lui dire, j'installe des panneaux solaires, il va vous faire un prêt sur 12 ans. À un taux en plus en général bonifié puisque vous êtes sur de l'énergie verte. Donc aujourd'hui, en fait, ce que ressent le consommateur qui s'équipe, ce n'est pas de hausse de ses charges puisque le coût du prêt est au moins égal au coût des économies. Donc on équilibre vraiment son investissement et c'est ça que qui devient très intéressant.
Et vous avez combien de clients? Parce qu'on disait, vous avez commencé tout petit, maintenant vous avez déjà 100 millions de chiffre d'affaires, vous avez multiplié par 3, vous espérez multiplier par 5, donc ça ferait 500 millions à quelle échéance?
Alors, 500 millions, ce serait plutôt à 5 ans.
Oui,
et on a aujourd'hui 30 000 clients de déployés, dont 10 000 à peu près, qui sont avec notre offre de batterie virtuelle qui, elle, gère 100% de votre facture, y compris les électrons qui vous manquent la nuit et les électrons que vous avez en trop le jour.
Alors maintenant, la question qui fâche, donc vous avez équipé en France sur la totalité du territoire, vous nous avez dit, mais il y a combien de maisons en autoconsommation, vous pensez?
On en a 500 000 aujourd'hui et on en a équipé 130 000 l'année dernière.
Ah oui, d'accord. Mais c'est vous 500 000?
Ah non, nous 500 000, non, nous 30 000.
Oui, vous, pardon, c'est 30 000. 30 000, oui, c'est ça. Oui, oui, 500 000, c'était le chiffre. Et déjà, je m'en souviens, la patronne d'Enedis, elle avait dit que c'était 400 000.
Ouais.
Donc ça grossit tout le temps, visiblement. C'est un énorme marché, c'est pas pour rien. Vous avez la BPI et d'autres gros actionnaires, on y reviendra, à votre capital. Juste un petit souci, c'est que la filière photovoltaïque en Europe, elle n'existe pas, c'est vraiment le grand échec de l'Europe. Et vous en fabriquez, mais ils viennent de Chine.
Alors oui, et
donc
je
vous
suis
avez
bien
aucun
placée...
complexe à dire qu'ils sont fabriqués en Chine.
Alors, c'est même pas un sujet de complexe, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, les 95% des panneaux solaires du monde sont faits en Chine. C'est un réel enjeu. Moi-même, de mon expérience historique, j'étais chez un fabricant de panneaux solaires. Quand j'ai démarré dans le milieu en 2007-2008, les premiers fabricants au monde étaient européens et entre autres allemands.
Oui.
Donc on a laissé...
Il y en avait un près de Nantes, là, qui vient de faire faillite.
Exactement. Oui, oui. Alors, l'enjeu, et typiquement, c'est un des sujets de la personne qui est de l'entreprise qui était à Nantes. L'enjeu, c'est de faire revenir la technologie de la cellule. Mmh. Et il y a deux très grands projets qui sont en train de se déployer, qui sont le projet d'Holosolis et le projet de Carbone. Moi, je crois beaucoup à ces déploiements. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on parle de 1,5 à 2 milliards d'euros d'investissement pour une usine. Donc, ça paraît colossal, mais c'est à mettre en perspective avec les plans de 60-66 milliards d'euros qu'on met dans nos plans nucléaires. Donc, c'est possible.
Et puis surtout, s'il y a des financements. Enfin,
exactement.
Et elles font vert de l'Europe. Enfin, il y a beaucoup de financements.
Exactement. Donc, je pense que ces projets peuvent vraiment trouver un avenir. Il faut aussi qu'on travaille, parce qu'il y a eu... le gouvernement chinois a fortement soutenu ces fabricants en créant aussi le plus grand marché au monde, le plus grand marché mondial d'installation, c'est la Chine. Et donc, il faut que nous aussi, en dynamisant notre marché local, on encourage les usines à se réimplanter. Les États-Unis ont fait ce pari et sont en train de le réussir. Il y a des usines qui se réimplantent aux États-Unis et il est temps que l'Europe...
Donc, nous, il y a deux projets, en tous les cas, c'est ce que m'avait dit Agnès Pannier-Runacher, en France et en Europe, en Allemagne, par exemple.
Il y en a quelques-uns en Allemagne, il y en a dans le nord de l'Europe.
Avec quelle échéance?
Alors, si on arrive à mettre ces 2 milliards sur la table, ça peut être fait en 18 mois. Hein.
Oui.
Donc, ça peut être extrêmement rapide. Il faut une vraie volonté.
Et vous, votre usine, elle est où en Chine?
Alors, elles sont à plusieurs endroits. Nous, notre
objectif... Ah, vous
objectif,
en avez plusieurs?
Oui, parce qu'on cherche toujours les panneaux solaires les plus puissants et la plus grande qualité. Et je pense que ça, c'est aussi l'enjeu de la réindustrialisation française. On doit amener les meilleures technologies. On ne doit pas être derrière, on doit mener sur la technologie. On a des centres d'excellence comme le CEA, comme l'INES sur le territoire français. On peut vraiment reprendre la maîtrise de notre technologie photovoltaïque.
Donc vous dites en fait on a l'innovation quelque part,
bien sûr.
On est bon. Mais après quoi, c'est une question de coût du travail, c'est une question de bureaucratisation.
Non,
c'est une question de quoi de...
pas vraiment, hein. Ce sont des usines qui sont très très automatisées. Je pense qu'on n'a pas réalisé à quel point c'était un enjeu stratégique.
Ah bah oui, parce qu'il y a eu des très subventionnés, puis après on a arrêté les subventions.
Oui,
enfin,
alors
du grand n'importe quoi.
C'est important de regarder comment on subventionnait par rapport à des pays comme la Chine. On subventionnait l'installation. Donc on a créé une filière avec des champions européens d'installation. J'ai en tête des Neoen. Nos grands énergéticiens font partie des meilleurs au monde, comme des Engie, des Total, des EDF. Donc on a créé une filière d'excellence sur l'installation parce que les subventions visaient l'installation. Sur la fabrication, on n'a pas mis les aides d'État qu'ont pu mettre des pays comme la Chine ou la Corée.
Ouais. Et c'est ça où il faut absolument trouver. Et à ce moment-là, si jamais c'est le cas, dans 18 mois, si on met 2 milliards sur la table, vous seriez prêt à fermer vos usines en Chine et faire fabriquer
Complètement, oui, complètement. Il faut aussi comprendre l'enjeu du panneau solaire. Sur le montant que je vous ai indiqué, le panneau solaire, c'est 15 à 20% du montant total. Donc le panneau solaire est devenu pas cher du tout. Et l'enjeu, en fait, quand vous installez un kit solaire, vous créez de l'emploi, de l'installation en local. Il y a toute une partie, une grosse partie de la valeur est en réalité faite en local, en France. Hein.
Vous avez 250 personnes pour l'instant. Vous comptez là, puisqu'on était 500 millions de chiffre d'affaires dans 5 ans, combien d'un effectif de combien dans 5 ans?
Dans 5 ans, c'est toujours un peu difficile de se projeter, mais en tout cas, on a 80-100 personnes embauchées rien que cette année. Donc vous voyez, on reste sur une courbe. Donc c'est pour ça que je vous explique.
Et vous n'avez pas de problème là, pour embaucher des gens?
C'est toujours un enjeu. Il faut travailler. On est en train de revoir toutes nos techniques. Il faut communiquer. On a quand même un atout incroyable. C'est qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui veut avoir un métier avec du sens. Et mine de rien, on leur offre ça en permettant de participer activement à la transition énergétique.
Vous êtes membre de la French Tech, évidemment, oui. du Tech 50, non, Tech 30.
Alors, pas encore, on doit postuler. C'est dans quelques semaines.
Dans quelques semaines, d'accord. Ok, ben, heureusement, vous êtes là, comme ça, on va vous porter chance. Si je vous pose la question, c'est parce que dans la French Tech, c'est vraiment tout ce qui touche à la transition écologique et énergétique. C'est un des points forts de la French Tech, non?
Alors, ça a été pendant longtemps plutôt le parent faible. Et oui. L'année dernière, sur les levées de fonds, à l'inverse, ça a été les meilleures levées de fonds l'année dernière.
C'est pour ça que je vous dis ça.
Il y a vraiment un virage. Ouais. Et ça veut aussi dire, et pour être dans un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs, on voit vraiment que les entrepreneurs aujourd'hui, peut-être qu'ils ont réussi à faire des très belles entreprises dans toutes les... Alors, on appelle ça disrupter, hein, dans toutes les entreprises qui disruptent. Mais aujourd'hui, ils veulent de nouveau, eux aussi, créer des entreprises avec du sens.
Merci beaucoup, Ondine Suavey. Donc, on a appris vraiment que l'autoconsommation, c'est vraiment quelque chose qui explose en France.
Exactement.
D'où l'explosion de votre entreprise. My Light 150. Et puis là, vous revenez nous voir. Et la prochaine fois, on viendra avec votre frère. Comme ça, on verra un frère et une sœur. Et on va créer et développer une été. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Thomas Asportas pour toute l'info.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h34 sur BFM Business, nos experts sont en plateau, Edwige Chevrillon, Emmanuel Lechypre sur le gong, comme toujours, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux.
L'économiste qui tirait plus vite que son ombre, et Audrey Tcherkov, évidemment.
Et bonsoir, Tamsas.
Bonsoir Audrey, très heureux de vous retrouver cette semaine. Messieurs, dames, on commence évidemment la semaine avec la lettre annuelle du gouverneur de la Banque de France au président de la République. Le gouverneur, avec ses mots à lui, met quand même un petit peu les pieds dans le plat sur la stratégie économique et budgétaire de la France. Il dit notamment, c'est la phrase que j'ai retenue, il faut sortir de l'illusion que la croissance va régler à elle seule nos problèmes de finances publiques. Ça, dans des...
ça on aurait pu
dans
dire.
La bouche, oui, mais dans la bouche d'un banquier central, c'est un tacle quand même adressé au président de la République, non?
Oui, sauf que ce tacle-là, François Villeroy de Gallo, Christian Noyer avant lui... Jean-Claude Trichet avant lui, vous retrouvez quasiment mot pour mot les mêmes mots dans la même lettre au fil des années. Donc on est malheureusement dans, enfin je veux dire, toute la dramaturgie qu'on est en train de jouer autour des finances publiques. Ben voilà, la lettre du gouverneur de la Banque de France, ça en fait partie. Voilà, un nouvel élément
du rituel.
Et sans aucune inflexion des trajectoires, avec des recommandations qui sont quand même extrêmement classique, ce serait même presque un compliment. C'est-à-dire, ce sont des recommandations éculées. On peut pas tabler que sur la croissance. Il faut faire que des baisses d'impôts qu'on peut financer.
Non, mais là, pour le coup, rétablir les comptes par la croissance, c'est vraiment le mot d'ordre du président. C'est dans ce sens-là où je dis que c'est un peu intact.
Deux choses. Moi, d'abord, j'aurais bien voulu voir la. Je sais pas du reste s'il lui a pu lui remettre, mais d'habitude, il le remet quand même à Emmanuel Macron. D'abord, j'aurais bien voulu avoir la tête du président en face pour voir s'il a compris pourquoi. Et puis, j'imagine qu'Emmanuel Macron lui a quand même dit attendez, si la croissance a marqué le pas à ce point-là, j'ai une petite idée de la raison. C'est que la Banque Centrale Européenne
a légèrement augmenté ses taux.
Très fortement ses taux d'intérêt. Donc, ils ont cassé quand même un peu la croissance. Alors, il y avait des raisons, bien sûr, l'explosion de l'inflation. Enfin, c'est quand même ça qui a cassé, et c'est ce que vous voulez, c'était arrêter la machine, arrêter la surchauffe. Donc, je pense que...
Oui, c'est le serpent qui est
dans la queue. La croissance, c'est vous qui l'avez cassé, c'est pas moi.
Ceci dit, à partir du moment, et d'ailleurs, on en parle quasiment tous les soirs sur ce plateau, à partir du moment où la France a 10 points de plus globalement que la moyenne européenne en termes de dépenses publiques, avec des structures de dépenses différentes, mais globalement, on dépense plus que tout le monde sur tous les sujets, avec une dépense qui n'est plus efficace. On est obligé de parler de solutions structurelles pour sortir de cette ornière. Or, il n'y a aucune solution de la part du gouvernement, en tout cas structurelle, qui émerge. Est-ce qu'on garde ou pas le statut de la fonction publique? Qu'est-ce qu'on fait avec ce système des retraites qui ne fonctionne plus? On se dirige vers
mettez la France à feu et à sang. Donc c'est,
Mais je parle de prendre de décisions courageuses. Et c'est ce que Villeroy de Gallo essaye de dire.
Mais c'est toujours fait ce qu'a fait le gouverneur de la Banque de France. Ils ont toujours dit, avec leurs mots à eux, comme le soulignait Emmanuel, parce que justement, ils sont quand même très prudents. Et puis surtout, eux, ils ne sont pas dans la politique. Encore une fois, ils sont responsables de la politique monétaire de la France. Mais ils ne font pas de politique. Alors, parfois, la ligne de crête, elle est assez fine. Mais
quand il dit que le président doit renoncer aux baisses d'impôts, là, pour le coup, il fait de la politique. Là aussi, c'est un peu inhabituel de faire ce genre de recommandation. Il dit la France n'a plus les moyens de baisser les impôts.
Oui,
d'accord, les fameux 2 milliards pour les classes moyennes.
Alors, les 2 milliards de baisse d'impôts et puis la CVAE pour les entreprises. C'est les deux baisses d'impôts qui sont dans les tuyaux. Le gouverneur dit c'est simple, on n'a plus les moyens. Donc, stop aux baisses d'impôts.
Oui, mais vous voyez, c'est là où le gouverneur, il est un peu finalement dans le même cercle vicieux que le gouvernement, que le président de la Cour des comptes, que le président de la République. C'est-à-dire que tous les arguments qui sont présentés sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Alors, ok, renonçons à 2 milliards de baisses d'impôts pour les ménages. Renonçons aussi à quelques petits milliards de
3 milliards
de baisse de la CVAE. Voilà, mais encore une fois, les recommandations de François Villeroy de Gallo ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Et les réflexions restent toujours aussi pauvres sur tous les sujets. C'est-à-dire, sur le sujet de la dépense publique et de l'efficacité de la dépense publique, sur lequel, effectivement, on peut légitimement s'interroger depuis des décennies. Concrètement, ça n'a jamais été suivi des faits. Moi, personnellement, j'ai fini par renoncer à espérer...
Oh non, Emmanuel, ne renoncez pas.
De la réforme de l'État
pour aller vers un service public.
Ah, mais c'était la grande promesse d'Emmanuel Macron, je vous rappelle.
Oui, mais pas plus que ses prédécesseurs, il ne l'a tenu. Et donc, il y a bien un moment, si vous voulez, si la problématique, c'est de réduire nos déficits et notre dette, et j'ai envie de dire plus que notre dette, notre charge de la dette, parce que fondamentalement, c'est quand même ça le problème. Ce qui pèse sur les comptes publics d'un pays, c'est pas tellement la dette, c'est la charge de la dette.
Premier poste de dépense d'ici peu.
Vous avez toujours les quatre mêmes leviers, c'est-à-dire soit vous espérez de la croissance, ce qui est effectivement
le mantra du président,
soit vous espérez de l'inflation, soit vous réduisez la dépense publique, soit vous augmentez les impôts. Donc, moi, je pense qu'il faudra jouer un peu de tout ça. Et il y a la question, en fait, qui est absolument éludée aujourd'hui et qui, pourtant, d'après moi, est une question cruciale. Parce que oui, il y a sans doute... alors, même si on est dans un pays qui prélève beaucoup, mais notamment à cause des cotisations sociales, il y a un vrai sujet sur la fiscalité en elle-même, sur les impôts eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays dans lequel on a beaucoup d'impôts qui sont douloureux, qui ne rapportent pas grand-chose, etc. Et il y a...
Comment ça, qui ne rapporte pas grand-chose ?
Bah, prenez par exemple l'impôt sur le revenu en France. Tout le monde vous dit que c'est un massacre parce que c'est très douloureux pour ceux qui le payent et que fondamentalement, ça n'est pas une source de revenus majeure.
Non, mais c'est surtout le problème, c'est qu'il y a un Français sur deux qui ne le paye pas.
Oui,
c'est ça. C'est très injuste.
Et quand on pense aussi à tout ce qu'il va falloir financer, c'est pour ça que je vous dis la baisse des dépenses, moi j'ai du mal à y croire. Hein, si vous mettez bout à bout la défense, la santé,
certaines dépenses pour financer d'autres.
L'éducation.
Oui, parce que là on est en train de renier et sur l'éducation et sur la transition climatique.
Sur la nouvelle fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles sources de revenus qu'il va falloir taxer. Qu'est-ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle, par exemple, si l'intelligence artificielle remplace de la main-d'œuvre humaine? Qu'est-ce qu'on fait sur la fiscalité
environnementale? Attention à la compétitivité. Parce que déjà qu'on n'est pas super bien placé sur l'échiquier mondial.
Sur la fiscalité environnementale, c'est quand même un sujet.
Oui, mais ils vont parler de solutions européennes.
Oui.
Voilà, je pense que, pour en revenir à la politique qui a été conduite, la politique fiscale qui a été conduite, je pense que l'erreur d'Emmanuel Macron, même si ça partait d'un bon sentiment, c'était la suppression de la taxe d'habitation.
Ah ouais.
Et puis le fait de baisser les impôts de production, parce que c'est quand même les impôts qui financent les collectivités locales. Et je pense que le gros problème est le dérapage des dépenses publiques. On le voit bien, c'était notamment l'augmentation du nombre de fonctionnaires, mais pas que. Grand dérapage, il vient des collectivités locales. Et l'absence de réforme, parce qu'on empile les millefeuilles, on a fait la grande réforme de l'État avec François Hollande, finalement, ça complique, c'est même une catastrophe, hein, l'intercommunalité, tout ça, le grand machin. Et que... Il a déresponsabilisé un peu les collectivités locales. Parce que maintenant, c'est facile pour elles de dire bah, « Attendez, oui, mais enfin, vous comprenez, on nous coupe les vivres, alors donc on s'en sort pas, donc on est obligé d'augmenter la taxe foncière, etc. » Donc là, il a coupé le lien, ce que dénonçaient du reste les opposants, hein, cette suppression de la taxe
d'habitation. Il a coupé le lien, il a tout complexifié à l'heure où, justement, on n'arrête pas de parler de simplification. Et on se rend compte que finalement, simplifier, c'est très compliqué.
Ah bah simplifier, ça ne marche pas, oui, parce que...
Ça ne marche pas en France.
Alors ça, on verra mercredi, le projet de loi est présenté mercredi.
Exactement, justement. On en parlera
mercredi. Mais alors, de vérité pour Bruno.
Enfin, vous allez dire, décidément...
L'histoire se répète.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros...
Ah bah oui, nous qui sommes vieux, je peux vous dire que l'histoire se répète beaucoup.
Vous deux, vous êtes jeunes, etc. Vous êtes encore...
Mais même nous, on a entendu parler de simplification et de lettre au gouverneur.
Mais demandez à tous nos amis qui ont essayé d'y toucher un peu, à Guillaume Poitrinal.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et c'est qu'en fait, on est on a la meilleure machine à complexifier, à réglementer et à taxer du monde, et c'est extrêmement compliqué. Et vous voyez bien que quand vous voulez simplifier quelque chose, vous en arrivez à le complexifier encore davantage. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple tout bête, qui est la rémunération au mérite des fonctionnaires, quand vous voyez le système qui va être mis en place pour savoir si un fonctionnaire mérite ou pas, d'être augmenté ou pas, alors que dans n'importe quelle boîte, vous avez un chef de service
atteint des objectifs ou pas,
à sa discrétion, en fonction des objectifs fixés, etc., fait que voilà,
il a eu. Ça fait votre fortune, Emmanuel.
Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'on n'en sort pas.
Bon. Oui, alors juste quand même une question avant qu'on passe au sujet suivant. Les retraites, quand on voit que les pensions de retraite, ça représente une dépense absolument colossale, faut-il indexer à 100% ou pas un point de non-indexation? C'est 3 milliards.
Là, c'est l'engagement qui a été pris par le président.
Mais donc.
Juste le problème, c'est que les RTT, ils ne vont pas voter pour lui aux élections européennes. Moi, je trouve que c'est juste ça, je trouve d'une injustice absolument.
Ah, bah, il y a des milliards.
Il y a quand même un moment où Emmanuel Macron, c'est là où on se fourvoie sur toute la longueur. C'est-à-dire que comment trouver d'autres explications que les explications politiques pour expliquer les refus successifs de sauter les obstacles un petit peu difficiles en matière de bonne gestion des finances publiques.
Par exemple,
typiquement l'indexation des retraites sur l'inflation.
Par exemple,
l'assurance chômage.
Ah bah c'est un contre-exemple.
Parce que là on a une nouvelle réforme.
Ça flatte aussi un électorat.
Oui, c'est vrai.
Ça flatte aussi un électorat.
Ah oui, mais là, l'argument, ça marche pas parce que.
Bah si, ça marche aussi. Bah, mais il s'attaque pas aux vieux. Enfin, je veux dire.
Pas encore.
Voilà. Mais donc, non, au contraire, il a fait augmenter les pensions.
Donc, Mais non, mais justement, oui, alors qu'en fait, en réalité, cher, oui, il faudrait qu'ils payent. Il faudrait que les retraités oui, payent.
Mais surtout, je veux dire,
nos retraités, ils vivent beaucoup.
Oui, mais ça ne paye pas parce qu'ils
votent pas pour lui.
Non, mais c'est ce que je dis. C'est là où ils se font voir. Non, mais Edwige, c'est là où je dis qu'ils se font voir. C'est-à-dire, en gros, lui, il pense que. Effectivement, c'est le meilleur moyen de gagner des élections. Or, vous voyez bien que tout ce qu'il a dépensé pour les Français, on ne lui crédite pas. De rien. C'est-à-dire que
ouais, mais ça, c'est le propre de la politique.
La taxe d'habitation. Tout. Plus personne ne se rappelle qu'il a baissé.
Ouais, ça c'est
Bruno Le Maire, 30 milliards, je crois, de mémoire. Bruno Le Maire, on l'a dit. Oui, Bruno Le Maire, lui qui espérait finalement s'inscrire un peu dans l'histoire comme le ministre de l'économie qui a protégé les Français contre le Covid, etc. On l'accuse aujourd'hui d'être celui qui dit
qui a fait dériver
l'argent public. Et donc, on voit bien que tous les cadeaux qu'on peut faire aux Français électoralement.
C'est vrai. Ça oui, alors sauf que quand même.
Et après les gilets jaunes, etc.
Emmanuel, sur ce deuxième quinquennat, il y a zéro enjeu de réélection derrière. Donc c'est bien pour ça que ça
nous les élections européennes.
Oui,
personnelles.
D'accord, mais en tout cas personnelles, non. Non, mais c'est pour ça qu'on aurait pu attendre.
C'est pour ça qu'on a envie de lui dire. Vas-y.
Et ben voilà.
C'est pour ça qu'on a envie. Non, mais c'est ça. C'est
le cri du cœur d'Emmanuel.
Non, mais attendez, sauf s'il y a le Rassemblement National qui passe, qui succède, Marine Le Pen succède à Emmanuel Macron.
Là, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, on jette des pétales de rose tous les jours sur le chemin de Marine Le Pen vers l'Élysée, avec les questions d'insécurité, avec les questions d'islam, avec les questions de tous les services publics,
on peut pas dire qu'il y a Macron,
d'éducation, etc.
Je sais qu'il a des torts, mais enfin, il n'est pas responsable non plus de tout.
Edwige, il est président de la République.
Je sais bien,
il est jeune. Il n'avait théoriquement aucun.
Eh ben, il a fait les gilets jaunes.
De toute façon, il ne peut pas être candidat. Après, il pourra faire un autre métier, etc. Et moi, je pensais, compte tenu psychologiquement de ce qu'on savait de ce jeune homme, qu'il aurait peut-être l'ambition et la fierté de rentrer dans l'histoire comme étant celui qui aura remis la France sur les rails. Or, il va rentrer dans l'histoire.
C'est la première partie du premier quinquennat.
Il a fait beaucoup de choses.
Oui, après, et d'ailleurs, le déficit, on le rappelle quand même, était repassé sous le seuil
fragile des
3%.
Après,
il lui reste encore 3 ans, contrairement.
Après, il y a le Covid, etc. Mais je veux dire, le deuxième quinquennat, il pouvait être le quinquennat où il disait, attendez, moi je n'ai aucun enjeu de réélection. Je prends toutes les décisions qui sont bonnes pour le pays, quelle que soit l'impopularité que ça peut que
d'où
ça peut produire.
Chômage,
il faut du courage, Emmanuel.
La réforme des fonctionnaires.
Et voilà, Emmanuel, vous dites que la lettre au gouverneur est tous les ans la même, mais elle vous enflamme en plateau, manifestement. Quand bien même on commente la même
mais
lettre.
C'est le désespoir.
Emmanuel, non, pas lundi, on ne pas entendre ce mot-là. Allez, oui, un mot et après on passe à la suite.
Un petit mot, justement, qui fera le lien, justement. Là, mon invité qui donc fait MyLife 150, énergie renouvelable. Je dis, oui, mais c'est très bien, les photovoltaïques, les éoliennes, mais les Français sont quand même assez contre. Et elle me dit, oui, ils ont raison. Mais je lui dis, comment ça? Vous prenez à Rotterdam, les éoliennes, elles sont dans le port de Rotterdam. Donc vous avez des grues, et puis en face, vous avez les éoliennes, ça choque personne. Quand vous en avez dans la Creuse, quand vous en avez
au
pied du château de Grignan, ou du Mont Ventoux, ça choque tout le monde. Ouais. Elle me dit, oui, mais je suis d'accord, mais il faut quand même voir que ça supplante au déficit de l'État. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait vivre des tas de villages, des tas d'agriculteurs vivent grâce à l'implantation d'éoliennes. Et en fait, c'est ça qui tient le tissu rural français. Ouais. Personne n'ose le dire, mais voilà. Et bien, elle a raison.
Elle a raison. Ouais. Voilà. Alors justement, en effet, transition parfaite, puisque on voit, et c'est quand même très inquiétant depuis plusieurs mois, que la transition énergétique est mise à mal par le ralentissement de la conjoncture. Exemple très concret aujourd'hui avec Tesla, qui baisse encore ses prix en France, en Allemagne et en Chine. Quand on voit les difficultés de Tesla, qui ne sont pas des difficultés isolées quand on les compare reste du secteur. Non, mais est-ce que ça vous inquiète pour la voiture électrique de manière générale, Emmanuel?
Bah, de toute façon, on a toujours dit que ces objectifs qui sont fixés comme ça, de façon totalement péremptoire et politique, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a encore que les politiques qui pensent que parce qu'on fixe des objectifs, miraculeusement, ces objectifs vont être atteints. C'est comme les députés qui pensent qu'il suffit de faire des lois pour résoudre un problème.
Oui, non, parce que si on ne se fixe pas de cap, on n'arrive à rien.
Si vous ne donnez aucune clé,
ça donne un cadre.
Ça donne un cadre, mais n'empêche que si vous n'avez pas les moyens d'avancer dans cette transition, parce que notamment il y a tout un tas de gens qui n'ont absolument pas les moyens de s'acheter tout ce qui serait nécessaire.
Non, mais c'est bien pour ça qu'il y a eu toute une politique de subvention publique mise en place.
Oui, mais si vous prenez sur tous les sujets, on est très loin encore de ce qu'il faudrait mettre sur la table. C'est-à-dire que si vous regardez les ménages les plus modestes, oui, les aides automobiles, ça existe. Oui, les aides à la rénovation du logement, ça existe. Mais les restes à charge, encore une fois, qui restent...
sont beaucoup trop élevés.
Sont beaucoup trop élevés.
Oui, mais regardez, en fait, t'as la seconde où les gouvernements et les pays dont on parle ont décidé de réduire ou d'arrêter les subventions, que les ventes ont chuté. Moins 75% en Norvège, en Finlande. Oui,
non, mais voilà. En Allemagne aussi, en France, sur la voiture électrique.
Exactement. Non, mais donc les gouvernements s'étaient dotés quand même de moyens financiers, mais c'est sûr qu'au vu de la conjoncture économique, c'est beaucoup plus difficile de soutenir cette transition climatique que ce que l'on pensait.
Oui, mais en même temps, vous avez des règles. Quand vous discutez avec les entreprises de la transition écologique, que ce soit des NG ou des Total Energy ou autres, hein, ou des entreprises ou des ETI, si vous voulez, ils croulent quand même sur les règles, les réglementations. Et en plus, vous prenez le 55, vous prenez toutes les réglementations qui ont été fixé par l'Europe, si vous voulez, c'est un véritable cauchemar. Et en plus, il y a des sortes de trucs complètement illogiques qui fait que ça a une répercussion sur les coûts. Il n'y a pas de standardisation. Vous prenez les pompes à chaleur, par exemple, et ben, il n'y a pas de standardisation.
Oui.
Donc, celui qui vend en Allemagne, et ben, il est obligé de tout refaire différemment quand il vit en France. Alors, je ne vous parle pas de toute la bureaucratie derrière, mais il n'y a aucune standardisation. On a envie de dire, si on veut faire un marché européen, transition, baisser les coûts, ça serait, c'est un peu bête comme chose que je dis, mais ça serait très très utile.
Bah,
et il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Donc c'est là où on se heurte au réalisme.
Ouais. Est-ce que c'est un peu ça qui est en train de se passer en ce moment? Il y a JP Morgan qui a planté le décor avec une note justement pour encadrer ce congrès annuel de l'énergie à Rotterdam, 26e, qui dit il faut revenir sur Terre, la transition ne peut pas avancer aussi vite que prévu parce que y a une économie autour, il y a les taux d'intérêt, il y a l'inflation, il y a la réglementation. Est-ce que là on n'a pas cette transition énergétique qui est en train de se confronter au réel? Est-ce que c'est la phase qu'on est en train de vivre?
Oui, mais c'est pour ça que regardez par exemple les Écossais qui renoncent à leur objectif. Voilà, mais pour une raison simple, c'est que quand vous voyez quand même que si vous prenez les objectifs qui étaient les objectifs de réduction de moitié des émissions de CO2 entre 90 et 2030, vous voyez quoi? Vous voyez
55% même.
Vous voyez que on va devoir faire en 10 ans ce qu'on n'a pas réussi à faire en 30, et en plus sans changer les méthodes qui ont conduit à ce qu'on devait faire, on ne l'a pas fait.
C'est-à-dire, Emmanuel, vous voyez que ce soit en France ou en Allemagne, on réduit de 5% par an, là. On est beaucoup plus rapide, que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Alors, si vous voulez reprendre les grands
chiffres... L'an dernier, pardon.
Si vous voulez, alors, moi, je veux bien qu'on s'affole avec les pourcentages de variation en partant de bases très basses, mais la réalité, c'est qu'en fait, on a fait une très petite partie du chemin de ce qu'on aurait dû faire. Or, ce qui m'inquiète encore une fois,
c'est
comme la France
après 2030.
Avec ses finances publiques. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye encore et toujours, alors que ça ne fonctionne pas, on essaye toujours de dire il faut faire plus fort et encore plus spectaculaire et encore plus d'efforts en utilisant les mêmes méthodes. Et on ne voit que ça ne marche pas. Mais parce que, soyons pragmatiques par exemple, on se rend compte que pour financer et pour alimenter la transition énergétique, on a besoin d'énergie fossile massivement pour fabriquer toutes les énergies
c'est
renouvelables.
C'est un paradoxe,
Bon, voilà.
Mais c'est pour ça qu'on parle de transition.
Mais cette transition qui a consisté à dire il faut plus investir dans le pétrole, il faut plus investir, etc.
Mais oui, mais parce que vous, vous le saviez mieux que moi, l'Agence internationale de l'énergie dit que si on veut respecter nos objectifs de l'accord de Paris, il faut arrêter tout de suite tout nouveau projet de forage. Or, mais c'est pas du tout ce qui se passe à l'échelle mondiale.
Bah, c'est pas du tout ce qui se passe parce que quand on vous dit que la demande mondiale de pétrole va augmenter encore dans 40 ans, ça c'est des courbes de technocrates. C'est des technocrates qui prolongent des courbes.
Ah non, ce sont des courbes de scientifiques qui étudient le réchauffement.
Oui, mais les scientifiques, les technocrates, ils sont à côté de la plaque. Ouais. Jean Jouzel, il nous aura expliqué beaucoup de choses, mais il n'aura servi à rien, et il a même une part de responsabilité avec les gens.
Mais de la même manière que Patrick Pouyanné est aussi un peu à côté de la plaque.
Non, parce que si vous me dites demain à qui je fais le plus confiance pour qu'on ait une planète plus propre, je fais plus confiance à Patrick Pouyanné.
Vous ne pouvez pas dire ça.
Mais bien sûr que si. Mais parce que les gens dont vous parlez, c'est des gens qui ne sont pas dans l'action. C'est des gens qui sont dans les modèles.
Non, mais c'est dur de nous faire ça maintenant parce qu'il reste que deux minutes.
C'est des gens qui sont dans la théorie. Alors, qu'ils soient à leur place, c'est très bien. Mais je veux dire, qu'ils ne nous expliquent pas au quotidien comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Ils nous imposent des trajectoires.
Mais attendez, on parle d'un patron.
Mais ils documentent, c'est pas leur rôle.
Vous nous parlez d'un patron qui n'a que pour objectif de développer le rendement de son entreprise.
Non, c'est pas.
Vous pensez qu'il met l'intérêt général avant ses intérêts financiers?
La magie du capitalisme fait que l'intérêt de son entreprise sera un jour le même que celui de la planète et qu'il l'est déjà en partie.
C'est déjà en partie, puisque vous avez déjà des fonds qui ne veulent plus financer Total. Le Total tel qu'il existait, donc aujourd'hui c'est Total Énergie. Et donc on voit bien que la transition est en marche justement chez Total Énergie.
Oui, alors avec un procès en cours quand même de la part de l'État de Californie, intenté envers l'ensemble des majors du pétrole parce qu'elles ont caché beaucoup de données, notamment par rapport aux liens qu'elles ont avec le réchauffement climatique à l'échelle mondiale.
Mais ça c'est diagnostic, c'est très bien.
C'est évident.
Mais tout ce que ça a conduit en termes
même chez Total, il y a des scientifiques. Pour le coup, c'est la base.
Le résultat est catastrophique, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Donc prenez l'exemple des Chinois qui ont choisi une autre méthode, qui est de se dire on se fixe un objectif non pas à 20 ans ou 30 ans, mais à 70 ans.
Oui.
On essaie de l'atteindre. Et d'ici là.
Mais qui investissent massivement dans l'économie verte,
notamment dans les photovoltaïques.
Sauf qu'encore une fois, ils continuent dans le même temps à investir pour satisfaire leurs besoins en énergie fossile. Donc qu'on développe effectivement toutes les énergies modernes. Mais encore une fois, moi je vous l'ai souvent dit ici, le principal risque qu'on a si on réduit trop les investissements dans les énergies fossiles, c'est qu'on va se retrouver face à une crise majeure qui ira jusqu'à compromettre cette transition énergétique. Regardez.
Avec une illustration dans la voiture. Je pense que
allez, le mot de la fin pour
Wedge. C'est la voiture. Non, mais c'est vrai. Par rapport à ce que dit Emmanuel Le Chypre, regardez la voiture électrique, on dit c'est la solution, c'est formidable. En fait, comme dit Carlos Tavares, il n'y a eu aucune étude d'impact. Puis on voit bien qu'aujourd'hui, ça patine.
Oui, et on sait d'ailleurs que la voiture électrique, c'est aussi uniquement une question de transition.
Oui, c'est la meilleure solution.
Ouais.
Ils ont imposé ça avec des délais extrêmement courts, sans aucune étude d'impact, quand même.
Peut-être que ça bougera après les élections européennes, c'est un des enjeux, notamment. Merci à tous les deux, Emmanuel Le Chypre, Edwige Chevrillon. D'un mot, votre invité Edwige, demain.
Demain, Jean-François Rial qui présente ses comptes. On verra justement si les gens voyagent, les voyageurs du monde. Ouais. Voilà.
C'est probable. Allez, rendez-vous à demain. Merci beaucoup, Edwige, Emmanuel. Et merci à vous, Audrey, c'est déjà fini.
Mais merci à vous, Tom Sass, pour cette première, cette semaine. On continue de décrypter l'actualité économique ensemble. À tout de suite.
Absolument.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.